Georges Samprun, nous avons déjà abordé la question centrale du camp de déportation de Buchenwald. Peut-on dire que vous arrivez au camp après le terrible voyage communiste, militant communiste, en dépit du pacte germano-soviétique de 1939, ayant connu un certain nombre de communistes déjà? Est-ce que vous êtes, vous considérez comme militant communiste, non inscrit, mais militant communiste?
Je me considère déjà comme militant communiste, en effet, non inscrit, ou comme on disait à l'époque, non cadré, non pris en charge par les cadres. Le pacte, interprété par mes 16 ans, est quelque chose qui me paraît un acte politique cynique pour gagner du temps, qui ne me choque pas outre mesure. J'essaye de reconstituer mes impressions de 16 ans, en 1939, qui ne me choque pas outre mesure, peut-être d'abord parce que je considère que la politique n'est pas le lieu essentiel de la morale, mais surtout parce que je sors de la guerre d'Espagne, j'ai vu la République espagnole abandonnée et trahie par les démocraties, et que, bon, finalement, ça me paraît comme un juste retour des choses d'ici-bas, n'est-ce pas? Les démocraties, à la fois, maintenant, sont abandonnées par Staline, à leur triste ou joyeux sort. Bon, tout ça fait partie des avatars cyniques de l'histoire. Ça ne me préoccupe pas autre mesure. C'est-à-dire que ça ne m'a pas... j'avais 16 ans. Ça n'a pas gêné mon adhésion spirituelle aux idées marxistes et communistes.
Même au cours des 2, 3, 4 années suivantes, au moment, au feu de l'action, au contact d'hommes divers et d'hommes qui étaient devenus des résistants sans être communistes et qui se posaient eux-mêmes les problèmes et qui, pendant les discussions, devaient... tu viens avec nous, tu es communiste, en dépit du pacte, et vous deviez avoir à réviser, retoucher, à compléter, oui, le choix de d'août 39.
Oui, je comprends très bien la question, et c'est une question qui aujourd'hui est importante, mais à l'époque, l'invasion de l'URSS dans l'opération Barbarossa par Hitler, et la résistance très vite efficace et héroïque du peuple soviétique avait effacé complètement tout ça. Il faut se mettre dans les conditions de cette génération qui voit surtout l'Union soviétique à travers l'héroïsme du peuple russe dans cette bataille. Et puis il y a Stalingrad qui arrive très vite, et donc la légende continue. Donc ça masque... je me permets de vous rappeler, Jean Lacouture, que notre Léon Blum, revient en 1945 d'Allemagne et, pour la seule fois de sa vie, écrit dans un article un paragraphe à la gloire de Staline.
Moi, je suis tout à fait votre raisonnement, mais vous avez fait oraison, vous avez retouché, révisé très profondément, essentiellement, votre attitude à l'égard du communisme. Est-ce que le pacte a été un élément de cette révision, ou bien la révision se produit à propos d'autres transformations historiques, d'autres chocs historiques?
Non, pour moi, la révision commence à propos d'autres événements historiques. Et il me semble que c'est assez facile à comprendre et assez normal que, pour moi, l'événement crucial, c'est la découverte du goulag. Pour moi, ancien déporté, dans un camp nazi, ce qui a été vraiment l'os impossible à ronger par la moulinette dialectique qui remet tout en perspective et qui s'arrange toujours pour faire tout admettre et tout comprendre, la seule chose qui n'est pas admissible. Vous me direz, vous aurez pu le savoir avant. Ne pas attendre le 20e congrès, Khrouchtchev, et puis la journée d'Ivan Denisovitch, etc. Bien, d'accord, historiquement, on pouvait savoir avant. Dans ma biographie personnelle, avec l'aliénation normale du militant qui est obsédé sur une lutte en Espagne où l'instrument communiste clandestin est efficace, j'ai su, vraiment, j'ai pris conscience complètement à partir de certains moments, et ça, c'est ça le choc irrémédiable, c'est ça qui fait à partir de quoi tout bascule pour devenir une analyse impitoyable du communisme, y compris de mon propre passé.
En tout cas, arrivant à Buchenwald, puisque Buchenwald il y a, vous êtes vraiment pris dans le bloc communiste. Vous êtes un profondément solidaire du bloc communiste.
Oui. Très peu de jours après mon arrivée en camp de quarantaine, au bloc 62, certainement parce que quelqu'un, un interrégional, comme on disait à l'époque, un responsable interrégional des FTP qui m'avait connu dans Lyon, au cours d'une mission de distribution d'armes, a signalé ma présence à l'organisation clandestine du Parti communiste espagnol à Buchenwald. Les Espagnols à Buchenwald n'étaient pas très nombreux, il y avait à peu près 150. Le camp où il y avait la plupart des Espagnols républicains internés, déportés, c'était Mauthausen en Autriche, qui était plus dur que Buchenwald. Il y a eu plusieurs milliers d'Espagnols qui sont morts. Là, la communauté espagnole était arrêtée en France, dans la résistance française, une communauté de 150 personnes. Et un jour, s'est présenté un homme, un déporté comme moi, qui était là depuis quelques semaines, et qui était un des responsables communistes, et qui, par ce jeu de questions, arrive à identifier et arrive à la conviction qu'en effet, les références que je lui donne sont réelles, reconstitue et comprend la rupture de contact à cause des arrestations. Et je suis, à partir de là, totalement intégré dans l'organisation communiste clandestine espagnole de Buchenwald. Et pour une raison très simple, pour la raison de, parce que je suis le seul Espagnol qui parle l'allemand, Le seul bourgeois espagnol mais ayant
merci,
su...
Merci, mon père.
Merci, mon merci, père. Mon merci, cher. Fräulein Grabner, qui m'a appris l'allemand, n'est-ce pas? Merci, mon père. Merci, la classe bourgeoise qui permet aux enfants d'apprendre l'allemand. Alors, je suis donc chargé de représenter cette organisation espagnole dans un des bureaux du camp, dans une des bureaux de l'administration interne du camp, qui était, comme on commence à le savoir maintenant, entre les mains des communistes allemands, pour l'essentiel. Mais voilà, arrivé donc un jour dans ce service du travail, Arbeitsstatistik, je suis reçu par le capot allemand, un jeune communiste allemand, enfin relativement jeune, récidiviste, avec une bande rouge sur le triangle rouge, prouvé qu'il avait été donc en prison en 1933, c'était sorti de prison, était repris parce qu'il avait repris le travail de l'organisation communiste. Et voilà, et à partir de là, je suis donc fait partie un peu de la nomenclatura communiste de Buchenwald.
Ce qui est tout à fait mystérieux pour quelqu'un comme moi, c'est comment, à l'intérieur d'un système aussi structuré que le totalitarisme nazi et un camp de répression dans le totalitarisme nazi, l'autre totalitarisme d'origine soviétique, en l'occurrence plutôt allemand, mais quand même, arrive à pénétrer, à exister, à respirer, si l'on peut dire. Comment l'une structure entre dans l'autre? Est-ce que parce qu'au fond, il y a une certaine parenté essentielle ou bien parce que la structure communiste est encore plus forte, encore plus ancienne, encore plus à une énergie plus profonde?
Il faut dire au départ que le camp de Weimar-Buchenwald est un camp très particulier. Dans le système nazi, dans le système de l'archipel nazi des camps, il est vrai que Buchenwald est spécifique. D'abord, ce n'est pas un camp d'extermination avec chambre à gaz, c'est un camp de travail. C'est un camp très dur, mais de travail. L'extermination se fait par la faim et l'épuisement, mais dans le travail. C'est un camp où, autour duquel très vite sont construites des usines d'armement. Donc, qui exige une main-d'œuvre qui soit pendant un certain temps opérative, exploitable. Et ensuite, parce que le hasard, je ne sais pas quel hasard a voulu que les décisions bureaucratiques de la SS ou de la Gestapo a concentré à Buchenwald le plus gros des communistes allemands internés à partir de 1937, puisque le camp a été construit en 1937. Là, ils viennent là. Les politiques allemands, communistes et sociaux-démocrates, mais en grande majorité communistes. Et donc, cette bataille qui se produit partout pour le pouvoir interne, qui est à la fois une bataille misérable, héroïque et décisive, parce que le contrôle de la cuisine peut permettre de vivre ou de faire mourir.
Hein, ou de faire mourir.
À Buchenwald tourne à l'avantage des communistes. Les droits communs sont évincés peu à peu du pouvoir. Pourquoi? Sans doute parce que la complexité de l'infrastructure industrielle autour de Buchenwald, il y a les fabriques de carabines automatiques de la Gustloff, il y a les fabriques d'appareils de téléguidage des fusées V1 et V2 à la MIBAU, il y a d'autres fabriques d'armement à la DAV. C'est-à-dire que cet ensemble-là exige une certaine capacité d'administration. Que les communistes allemands, qui sont souvent députés, anciens députés de Reichstag, anciens cadres des organisations régionales, sont de meilleurs administrateurs que les criminels de droit commun. Donc là, il y a une espèce de cohérence, de logique objective de la guerre qui les met au premier plan. Et puis après, le fait que ce sont des Allemands. Les Allemands. Et que quand le camp commence à devenir, à partir de 1939, un camp multinational, multiculturel, avec toutes les nationalités d'Europe, sauf les Juifs, qui sont envoyés dans les camps de Pologne pour être exterminés, qui ne viennent pas à Buchenwald, sauf tout à la fin, comme rescapés et évacués des camps de Pologne. Sinon, il n'y a pas de Juifs à Buchenwald. C'est donne encore une autre caractéristique au camp. À partir de là, il s'est passé cette espèce pas de complicité, parce que ce serait un mot absurde et ignoble presque, mais on s'appuie sur les détenus allemands pour mener cette grande ville de 50 000 habitants, plutôt que s'appuyer sur les Tchèques ou sur les Polonais ou sur les Français ou sur les Italiens ou les Espagnols ou les Yougoslaves, que sais-je encore.
Mais au risque de dire quelque chose d'un peu ignoble, que je ne ressens pas du tout comme ça, il y a tout de même un élément là de... Vous avez employé le mot de complicité tout à l'heure. C'est vrai que d'une certaine façon, la structure communiste permet à la structure nazie de produire, puisqu'il y a même des usines d'armement autour. D'une certaine façon, le mot est encore... Je suis tout à fait d'accord que le mot est horrible et qu'il ne rend pas compte. Mais il y a une sorte de complicité objective tout de même entre les deux totalitarismes, puisque l'organisation communiste permet au camp de marcher, et ce camp produit... et fait une production, et même une production de guerre.
Oui, alors là, la réponse des communistes allemands et la réponse que j'aurais faite en 1944-45 à Buchenwald, et que je refais aujourd'hui en la situant dans ce contexte, c'est-à-dire en la reprenant à mon compte, mais en la datant de ce contexte, c'est une réponse très concrète et très précise. De toute façon, les usines auraient tourné. De toute façon. L'alternative n'est pas entre... qu'elles usines tournent ou qu'elles ne tournent pas. C'est qu'elles tournent, administrées, régies par, bien entendu, les contremaîtres et la direction allemande, civile, et les SS, ou, au point de vue déportés, détenus, prisonniers, les communistes et leurs alliés, ou les droits communs et leurs alliés. C'est ça l'alternative. Bien. La thèse allemande, communiste allemande, que j'approuve, mais qui, évidemment, est tout le temps sur le fil du rasoir. Parce que c'est ça. Et on ne peut pas jamais oublier que nous sommes tout le temps sur le fil du rasoir. La thèse, c'est que l'occupation, et c'est une vieille méthode bolchevique, d'occuper toutes les positions légales pour pousser en avant la lutte révolutionnaire de rupture du consensus social. Donc, cette vieille méthode, cette vieille tactique bolchevique, léniniste, consiste à s'incruster dans l'appareil et l'utiliser pour le dévier. Il vous répondrait... qu'en effet, on a produit des carabines, mais que le 60% de ces carabines étaient inutilisables. Les archives le prouvent. Parce que le sabotage organisé tout du long de la chaîne, les malfaçons, rendaient au moins la moitié de ces carabines inutilisables. Qu'on pouvait sauver des cadres de la résistance et des futurs ministres des pays occidentaux. Certains d'entre eux ont été sauvés par cette organisation. Je me rappelle toujours comment on a sauvé... Marcel Dassault, qui s'appelait à cette époque-là Marcel Bloch. C'est justement, je vous donne un exemple précis, c'est justement Henri Frager, le chef du réseau Jean-Marie Action, que j'avais retrouvé là-bas, avant d'être fusillé, qu'un jour m'a signalé, il a là un vrai résistant, c'est Marcel Bloch, il va mourir parce qu'il est dans un commando terrifiant. Signalez à vos amis communistes français qu'il faut faire quelque chose pour lui. Bon, il a été sauvé. Il a été sauvé. Je donne cet exemple précis parce qu'il y a des noms, et c'est précis, c'est très précis. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est-à-dire que bien entendu. Pourquoi fil du rasoir? Parce qu'il suffit de la moindre inadvertance, de la moindre faiblesse pour transformer ça en complicité. Pour transformer ça. Et il y a des gens qui, évidemment, ont transformé ça en complicité. Il y a des capots communistes allemands qui ont été des collaborateurs du système, et une minorité, mais certains d'entre eux, et qui ont même pris les habitudes du système, c'est-à-dire qu'ils ont frappé. Mais je dois dire que la majorité ne l'a pas fait.
Mais tout cela, au jour le jour, ça se réalisait comment? Parce que vous étiez sous le gros œil du système de contrôle le plus intense, le plus effrayant qu'on puisse imaginer dans l'histoire, n'est-ce pas? Vous étiez sous l'œil des SS. C'est que je n'arrive pas à visualiser, à ressentir comment vous arriviez à jouer et à vous jouer. Eh bien, des geôliers les plus terribles de l'histoire.
Eh bien, parce que nous sommes en 1944-45, que même chez les SS, on commence à savoir que la guerre, sinon perdue, n'est pas tellement c'est pas tellement évident qu'il va le gagner. Qu'il y a donc à ce moment-là des préoccupations personnelles qui se mettent par devant des préoccupations, disons, de fidélité idéologique, qu'on commence à jouer un peu avec l'avenir du côté de la hiérarchie SS, et que les contraintes de la guerre et la mobilisation sur le front de l'Est de la plupart des effectifs jeunes de la SS, Buchenwald était en même temps qu'un camp de concentration la base logistique de la division SS Totenkopf, tête de mort. C'était là. Il y avait les casernes, la base logistique, donc. Ils sont de moins en moins là. Ils sont de plus en plus sur les fronts divers et variés, surtout le front russe. Donc, il y a ça, il y a donc cette conjoncture. Et puis, il y a le fait que, en fonction de tout ça, ils sont de moins en moins présents dans le camp lui-même. On peut visualiser tout ça. Ce camp est une enceinte électrifiée d'où sortent les commandos pour travailler, où ils rentrent à partir d'un certain jour, c'est une heure de la soirée, où ils sont enfermés, où les SS ne viennent plus. C'est-à-dire que, dans cette enceinte électrifiée, surveillée par des miradors et des mitrailleuses et des projecteurs qui balayent l'enceinte toute la nuit, les SS ne viennent plus. Ils ont peur de ce camp. C'est-à-dire que nous sommes les maîtres. Les organisations diverses et variées sont les maîtres du camp la nuit et le jour à l'intérieur de ça.
Ce que vous appelez les gens du dedans.
Les gens du dedans.
On est dedans, mais maîtres du dedans.
On est maîtres du dedans. Là, pour moi, il y a une... Je ne sais pas, une anecdote, c'est un événement qui peut-être permet de prolonger la réponse à cette question que vous posez, qui était pour moi fondamentale. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça signifie? Dans l'écriture, la vie, je raconte le moment quand je suis convoqué à une réunion de cadres communistes pour écouter le témoignage d'un survivant du Sonderkommando d'Auschwitz qui nous raconte l'extermination dans les chambres à gaz, le processus d'extermination, comment ça fonctionne, etc. Eh bien, je n'ai pas dit dans ce livre, parce que c'était un autre sujet encore, qu'à cette réunion assistent des cadres communistes de plusieurs nationalités. Il n'y avait pas de Français, peut-être parce qu'aucun d'entre eux ne parlait assez bien l'allemand pour écouter ce témoignage. Mais il y avait par exemple Josef Frank, qui est devenu après secrétaire général adjoint du Parti communiste tchécoslovaque et qui a été pendu dans le procès Slansky. Il y avait Ernst Busse, qui était le capot de l'infirmerie de Buchenwald, communiste allemand, qui, en 1950, a été pris dans le moulin de la répression soviétique, condamné par un tribunal soviétique et qui est mort dans un camp du Goulag. C'est-à-dire que là, la destinée du communisme se voit là. Ces gens-là, qui sont réunis là, risquent tout. Parce que, bon, cette réunion-là est complètement illégale. Ils exercent une liberté complète pour être, à ce moment-là, communistes, pour nous faire écouter un témoignage qui, en plus, est un témoignage contre leur pays, contre leur nation, contre leur peuple, l'Allemagne. Et ils vont aller jusqu'au bout de la servitude volontaire, parce qu'ils vont avouer. C'est pour ça qu'ils sont exécutés, parce qu'ils ont avoué des crimes qu'ils n'ont pas commis. Là, nous recoupons le grand mystère abominable et merveilleux, n'est-ce pas? C'est là.
On pourrait revenir un petit peu sur le cas de l'infirmier, parce que vous m'avez déjà parlé. Il me semble qu'on pourrait isoler un peu et creuser un peu le cas de cet infirmier qui est allé mourir et pendu par les soviétiques en fin de compte ou exécuté par eux, parce qu'il me semble qu'il est vraiment tout à fait exemplaire, cet homme. Busse, vous l'appelez ?
Ernst Busse, oui. Busse, bon, non, il a géré l'infirmerie du camp, c'est-à-dire l'un des endroits les plus importants et les plus risqués pour la résistance et pour la clandestinité. Parce que c'est vrai que admettre ou ne pas admettre à l'hôpital certaines personnes, gérer cet hôpital au mieux des intérêts de la collectivité des déportés, éviter les représailles et les injections mortelles que les SS pouvaient faire à certains malades pour les éliminer, c'était un des lieux où le conflit SS déporté, administration interne, était le plus vivant, le plus vivace et le plus fort, constamment, là. Et en plus, c'était un endroit de corruption possible, parce qu'il y avait une diète spéciale pour certains malades. Il y avait donc la possibilité de chaparder, d'organiser, comme on dit dans le langage du camp, c'est-à-dire de voler de la nourriture. Donc, c'est un endroit très lourd. Il a géré ça au mieux, d'après toutes les données que j'ai, personnelles, et les données qu'on a objectives, au mieux de la collective d'ensemble. Je ne veux pas dire par là qu'on ne puisse pas reprocher à un spouse ceci ou cela. À qui ne peut-on pas reprocher, quand on a été déporté de 37 à 45, telle ou telle faiblesse ou telle ou telle erreur d'interprétation? Cet homme commence à faire une carrière politique en Allemagne de l'Est, encore zone d'occupation, pas République démocratique, en 45. Et un beau jour, il est pris dans le moulin et il disparaît. Et il ne revient jamais de Vorkuta, d'un des camps de l'archipel du Goulag. Et à mon avis, c'est une destinée exemplaire dans le tragique de ce communisme allemand qui n'a pas su empêcher l'arrivée d'Hitler au pouvoir, qui a même contribué à cette arrivée par sa politique sectaire, anti-social-démocrate, par sa politique classe contre classe, et qui a souffert plus que beaucoup d'autres de la répression nazie, qui a vécu le partisanat soviétique, qui a quand même tenu les structures d'une résistance intérieure, et qui finit par être déporté et victime de la répression soviétique. Je trouve que c'est une existence absolument exemplaire et tragique de ce siècle.
Ça s'appelle ailleurs ou autrement la sainteté, d'une certaine façon, n'est-ce pas ? J'ai travaillé sur les jésuites et sur certains jésuites d'une certaine époque. Je pense qu'il y a des dévouements du même ordre. Les jésuites, ils pensent que s'ils sont torturés un jour, les jésuites du Québec torturés, ils sont à la droite du père le lendemain. Les communistes, il n'y a pas de droite du père. Et il y a les lendemains qui chantent pour d'autres. Je trouve que c'est vraiment la limite même du sacrifice humain. On y est. Et j'aurais tendance à vous poser la question à une époque où la mode est de comparer les deux totalitarismes, le communisme et le fascisme ou nazisme, si on peut imaginer un saint nazi. Est-ce que vous pouvez, vous, qui êtes romancier, ce que je ne suis pas, imaginer un saint nazi comme nous voyons là, dans votre bouche, des saints communistes ?
Non, c'est impossible. Moi, je crois personnellement sur cette discussion qui est loin d'être finie. Je crois qu'il est nécessaire de maintenir ce concept de totalitarisme, donc d'y englober pour l'analyse comparative aussi bien le fascisme ou le nazisme que le communisme, que le stalinisme, parce qu'en plus, ce concept nous permet de différencier ces deux systèmes de la démocratie. Quoi qu'on en dise, le totalitarisme stalinien a vraiment détruit la bourgeoisie et le capital. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile de reconstruire une société d'économie de marché et de société civile dans les pays de l'ex-URSS, et beaucoup plus facile de la reconstruire dans les pays de type fasciste, parce que quoi qu'on en dise, quoi qu'ait fait la démagogie révolutionnaire du nazisme, ils n'ont pas détruit le capital ni la propriété privée. Ils n'ont pas détruit. Donc, grande différence fondamentale. Je ne suis pas en train de dire que c'est mieux ou moins bien. Je suis en train de dire que c'est différent.
Voilà.
Différent. Et voilà. Puis, il y a une énorme différence dans le personnel militant. On ne peut pas comparer. Il est impossible de comparer, point par point, enfin, comme de superposer un militant nazi ou fasciste à un militant communiste. Je ne veux pas dire par là qu'il y a eu des jeunes attirés par le nazisme ou le fascisme qui, après, ont évolué en sont sortis. Bien sûr que non. Mais il y en a des... En Italie, par exemple, il y a même des dirigeants communistes qui ont eu un passé de quelques mois ou de quelques années dans les jeunesses fascistes. Ça, on comprend, dans un mouvement de masse révolutionnaire comme celui-là.
Vous ne citez pas l'Espagne, parce que l'Espagne, le fascisme, il n'y a pas vraiment de fascisme espagnol.
Il y a eu très peu, le phalangisme espagnol, il n'a pas eu cette influence. Et puis il est devenu, après l'unification de tous les groupes par Franco sous le nom de Falange, il est plutôt devenu un appareil bureaucratique de pouvoir et d'arrivisme social qu'autre chose. Bien, il n'y a pas. Mais c'est là où il y a le mystère abominable et merveilleux. C'est que ces militants, aussi aliénés qu'ils fussent d'un côté comme de l'autre, ils étaient aliénés du côté communiste pour une grande cause. Et ils n'étaient pas racistes, et ils n'étaient pas antisémites, même si le système était et a utilisé l'antisémitisme, le vieil antisémitisme russe, pour se renforcer dans certains camps. Et même si à la fin de sa vie, Staline, comme certains documents tendent à le prouver, préparait le déclenchement d'une purge antisémite, d'une répression antisémite. Mais ce n'était pas les raisons des militants. Donc il y a la différence par rapport à la destruction de la société civile et de la propriété privée, qui est énorme, et la différence par rapport à la qualité des militants. Même aliéné, un militant communiste est aliéné en fonction de choses qui ne sont pas les mêmes que nazis. C'est pour ça qu'on peut, la preuve, c'est que vous le faites, on peut parler avec un ex-stalinien. Mais il est beaucoup plus difficile de parler avec un ex-nazi.
Pour moi, en tout cas.
Et pour la plupart des gens normaux, décents, c'est très difficile de parler avec un ex-nazi. Je veux pas dire par là que ça excuse tout, que ça explique tout, pas du tout. C'est que quand on fait, justement, quand on utilise très fortement le concept de totalitarisme et qui englobe aussi bien le fascisme que le communisme, il faut immédiatement faire les distinctions qu'il faut pour ne pas tout mélanger.
En tout cas, vous-même, Georges Semprin, quand vous libérez du camp de Buchenwald, puisque vous avez reconquis votre liberté, grâce à l'organisation, grâce à votre courage, à votre résistance, vous êtes au moins aussi communiste que vous y êtes entré. La terrible expérience du camp a plutôt durci en vous la structure communiste.
Absolument. Mon expérience politique du camp est une expérience, en effet, de durcissement. D'ailleurs, stalinisation, ça veut dire durcissement, puisque Staline, c'est l'acier, n'est-ce pas ? C'est d'après l'acier que Staline choisit ce pseudonyme. En effet, le durcissement, la métallisation, la minéralisation de la pensée, de l'idéologie, sauf le jardin privé de la littérature, de la culture qu'on a toujours gardé par-devers soi et qu'on n'a jamais cru que le réalisme socialiste était vraiment la vraie théorie littéraire et qu'on n'a jamais pensé que Fougeron était le meilleur peintre du monde et qu'on n'a jamais pensé que Kafka était à brûler. Mais sauf ce jardin privé qui, évidemment, fait de vous un hétérodoxe, mais un hétérodoxe tolérable, c'est vrai que cette stalinisation s'est produite au camp, absolument. Et il a commencé à se défaire et à se dégeler et à m'entraîner dans un torrent de critiques à partir du moment, justement, comme je le disais tout à l'heure, une autre fois, à partir du moment où il est apparu que le camp n'était pas l'exclusivité du système nazi, mais qu'en même temps, il y avait les camps staliniens.